Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est clair. 12e jour de guerre en Ukraine et l'étau se resserre autour de Kiev, autour de Mariupol. Et après, où s'arrêtera Vladimir Poutine? Quel est son plan? L'Info C'est clair est intitulé « Poutine, la victoire ou le chaos ?» Nos invités, Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schuman, auteur de « Européens sans complexe », c'est aux éditions Marie B. Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro, vous avez été correspondante en Russie et vous avez publié « Macron, le disrupteur, la politique étrangère d'un président anti-système » aux éditions de l'Observatoire. Vous y parlez notamment de la diplomatie russe du président Macron. Et enfin, Chloé Ridel, vous êtes directrice adjointe de l'Institut Rousseau. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, la ville portuaire de Mariupol au sud-est du pays est toujours assiégée par l'armée russe. Je vous propose de voir ce reportage de Stéphanie Pérez qui témoigne bien de la violence des combats et de l'anxiété des populations. On regarde.
Tout autour de Mariupol, des dizaines de véhicules et de blindés russes qui s'amassent depuis plusieurs jours. Les troupes de Vladimir Poutine resserrent leur étau sur cette ville stratégique du sud ukrainien. Au passage de ce convoi de journalistes et de diplomates qui essaient de quitter la zone, la tension est vite perceptible, accentuée par la brume qui réduit la visibilité. Les soldats se mettent en position de tir. Ce tank dirige ostensiblement son canon menaçant vers les voitures. Illustration de la pression que subissent les 450 000 habitants de la ville encerclés et bombardés depuis plusieurs jours. Et l'inquiétude monte maintenant à Odessa, dernier verrou. Plus grand port d'Ukraine sur la mer Noire. La population se prépare à son tour à l'assaut de ses frères ennemis. Les volontaires entassent déjà des centaines de sacs de sable dans les lieux emblématiques.
Cette ville, c'est ma maison. Si quelqu'un fait intrusion chez moi, je défends ma maison.
Dans Kherson, cette autre ville tombée aux mains des Russes, quelques habitants osent brandir leur drapeau ukrainien et manifester leur opposition. Mais la Russie semble avancer ses pions inexorablement.
Jean-Dominique Giuliani, 12e jour de guerre, et on voit la détermination ne serait-ce que de cette jeune fille d'Odessa qui dit « Cette ville, c'est ma maison. Si on attaque ma maison, je me défends. » Est-ce que ça veut dire que le temps joue contre Vladimir Poutine? On est au 12e jour de guerre maintenant.
Oui, bien sûr, mais il y aura beaucoup de souffrance. Les Ukrainiens ne déposeront pas les armes. Et même si l'Ukraine est occupée, ils continueront à résister à l'intérieur ou à l'extérieur, ça c'est certain. Ça ne veut pas dire pour autant que Poutine n'atteigne pas ses buts de guerre, qui sont d'occuper le pays et de le diriger en quelque sorte sur le plan politique. Donc si vous voulez, c'est une situation où on va avoir beaucoup de souffrances, beaucoup de dégâts dans la population.
Il s'y attendait, Vladimir Poutine, ou bien non? Il est...
J'en sais rien,
je ne crois
pas. Il
pensait qu'en quelques jours, ce serait réglé et il est surpris de la résistance et ça contrecarre ses plans.
Je n'en sais rien. En tout cas, il y a une résistance. Le moral est du côté des Ukrainiens. Je ne sais pas dans quel état les troupes russes sont, mais vraisemblablement, ils ne devaient pas s'attendre à cela, en tout cas la troupe.
Isabelle Lasserre, alors, l'objectif de guerre, c'est de prendre Kiev. Et comment ça va se passer à Kiev? Est-ce que Vladimir Poutine va y avoir une guérilla urbaine? Est-ce qu'il va devoir bombarder la ville qui, dit-il, est le berceau de son pays? Est-ce qu'on bombarde son berceau? Quelles sont les options stratégiques maintenant pour atteindre les objectifs de guerre de Vladimir Poutine?
C'est bien tout le problème, parce que non, Vladimir Poutine ne s'attendait absolument pas à une résistance ukrainienne de ce type. D'ailleurs, l'opération initiale était une espèce de blitzkrieg, un saut jusqu'à Kiev qui permettait de décapiter le pouvoir et de le remplacer par une marionnette du Kremlin, après avoir, en même temps et avant, démilitariser le pays, c'est-à-dire détruit ses infrastructures militaires. Donc c'est pas du tout, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Vladimir Poutine n'avait pas du tout anticipé cette résistance. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Là, il est en train d'encercler les villes, de les bombarder. Pour l'instant, les bombardements à Kiev sont relativement limités par rapport à ce qui peut se passer contre Kharkiv, par exemple. Alors, vous avez raison, ça va être soit les bombardements intenses du type Grozny ou Alep, ce qu'a fait l'armée russe.
Ouais, sauf que là, on parle
plusieurs
de Kiev.
Fois. Soit Kiev, une guérilla urbaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Kiev, à mon avis, est plutôt épargné. C'est que c'est Kiev la russe, c'est le berceau pour les Russes. Et aussi parce que, en fait, c'est différent pour les Russes d'aller se battre à Grozny contre des musulmans tchétchènes ou à Alep contre des musulmans syriens. Là, ça fait des années que Vladimir Poutine dit aux Russes on va libérer Kiev, ce sont nos frères. L'Ukraine fait partie de la Russie, c'est le même peuple, c'était le même pays, etc. Donc en fait, Vladimir Poutine envoie ses soldats tuer leurs frères. Et c'est pour ça que c'est très compliqué et qu'on voit ces images de soldats complètement paumés qui ne savaient pas, quelques images de soldats qui se rendent aux Ukrainiens.
On sait pas du tout.
Voilà, oui, absolument. Parce que,
sur les doutes des militaires russes.
Parce qu'une guerre, c'est pas seulement. La guerre, c'est aussi l'affrontement des volontés. Et là, la volonté, elle se trouve du côté ukrainien.
Chloé Ridel, voilà, dénazifier le pays, c'est ce que voulait faire Vladimir Poutine, et puis le réarrimer à Moscou. Sauf qu'on a maintenant des peuples qui sont violemment anti-russes. Je lis que, après la Géorgie et l'Ukraine, la Moldavie a déposé sa candidature pour intégrer l'Union européenne. Est-ce qu'au fond, plus que jamais, les Ukrainiens, qui peut-être avant n'étaient pas anti-russes, maintenant, la conséquence de tout ça, c'est qu'ils sont violemment pro-européens et anti-russes.
Absolument, et vous le soulignez, la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine, tous ces pays sont des pays où existe une forte minorité russophone. On dit que ce sont des pays d'ethnie, même russes, de religion orthodoxe. Et ce sont aujourd'hui des pays qui, d'un seul homme, demande l'adhésion à l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça marque quand même l'échec fondamental de Poutine, quoi qu'il arrive dans le cadre de cette guerre absolument tragique. Poutine n'a pas réussi faire ce qu'a fait l'Union européenne par l'attraction et par le pouvoir de la séduction. Ce qu'il n'a pas réussi à faire comme ça, il le fait par la force. Et il veut soumettre, on parle de viol de l'Ukraine, c'est tout à fait ça. Sans son consentement, Poutine va dire à l'Ukraine, vous appartenez au monde russe, alors même que l'Ukraine désire depuis des années déjà aller dans les bras de l'Union européenne. Donc même si Vladimir Poutine essaie aujourd'hui de briser les corps, mais les âmes aussi, hein, en s'attaquant à Kiev, en s'attaquant à Odessa, en bombardant, en massacrant des civils, il a perdu. Il a perdu déjà, parce que c'est un aveu de faiblesse que d'avoir recours à la force alors qu'on aurait pu compter sur le pouvoir d'attraction, ce qu'il a essayé de faire avec notamment l'Union eurasiatique qui était calquée sur le modèle de l'Union européenne, hein, une union douanière avec la Biélorussie, avec le Kazakhstan. Il a commencé ça il y a 20 ans, mais en réalité, comme cette union est une sorte de visée impérialiste russe, ça n'a jamais attiré personne.
Le pouvoir d'attraction, Jean-Dominique Giuliani, et vous en êtes un grand défenseur, c'est l'Union européenne. J'ai lu un édito de ce week-end dans Le Guardian qui disait que même les Anglais, alors Le Guardian est toujours pro-européen, mais enfin ils disent « le Brexit nous a privés de la solidarité en temps de crise ». On a l'impression que les Anglais, bah, finalement, ils regrettent de ne pas être avec leurs frères européens face à l'ogre russe. Et les Polonais, j'imagine que plus aucun Polonais ne songe au Polexit comme on le redoutait il y a encore un mois ou deux, quoi.
Oui, absolument. Et le pouvoir d'attraction est considérable. Moi, je connais l'Ukraine depuis 20 ans. J'ai vu les Ukrainiens changer. Ils veulent vivre à l'européenne. Et d'ailleurs, beaucoup de Russes aussi. Donc, pourquoi? C'est un ensemble pacifique où on essaie de travailler, d'augmenter la prospérité avec un niveau de vie qui s'améliore et tout ça dans une liberté d'expression. C'est le cauchemar pour Poutine et sa bande de criminels venus des milieux interlopes et moyens du KGB qui a mis la main sur ce grand pays qui est la Russie. C'est le cauchemar. Le cauchemar, c'est d'avoir à côté de soi une Europe unie. C'est pour ça que Lavrov, c'est pour ça que Poutine essaie d'humilier, de diviser en permanence l'Europe. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, c'est 10 fois le PIB de la Russie. Non seulement on est plus riche, mais en plus, on est mieux, on vit correctement, on accueille, on respecte les gens. Et en plus, les Ukrainiens sont des Européens. Regardez la solidarité avec ceux qui fuient. On n'a pas le problème, comme ce ne sont pas des Africains, ils sont Européens, même pour les Polonais, surtout pour les Polonais et même pour les Français. Donc ce pouvoir d'attraction, il est considérable. On en prend la mesure. Il suffit qu'on ait un peu de hard power avec pour que l'Europe soit vraiment un acteur majeur. Et je me demande si ce n'est pas ce qui est en train de se passer avec une Union européenne qui réagit beaucoup plus fortement que les États-Unis, que les Britanniques ou que les autres, pour dire à Poutine, non, au XXIe siècle, on ne procède pas par la force. Si on a des différends, on essaie de les régler autrement. Et donc, je vois quand les sanctions, par exemple, il y a 700 organismes ou personnalités sanctionnés par l'Union européenne, il y en a 119 par les États-Unis. Donc, l'Union européenne est au cœur de la réponse donnée à Poutine. Non, on ne procède pas comme ça.
C'est la fameuse phrase, hein, l'Europe progresse dans les crises. Ben là, il y a une grosse crise, donc grosse progression de l'Europe.
Oui, mais alors moi je serais moins optimiste que Jean-Dominique sur le. Alors que les Ukrainiens soient totalement acquis à la démocratie, aux valeurs européennes, et ça depuis le début des années 2000, et ensuite c'est des objectifs qui ont été réaffirmés pendant la révolution de Maïdan. Je n'aurais pas la même certitude pour ce qui est des Russes. Hein. Il faut quand même rappeler que Vladimir Poutine, les dernières fois qu'il a été élu, il n'a plus eu besoin de combler les votes. Il était quand même encore assez populaire. Les Russes n'ont eu quand même qu'une expérience
limitée la démocratie.
De la démocratie. C'est des périodes de Boris Eltsine. Moi, je me souviens, j'y étais. C'était quand même assez chaotique. Et aujourd'hui, ils ont quand même une très, très mauvaise image de la démocratie. Et le contrôle absolu de l'État, quasi absolu de l'État,
par Vladimir Poutine,
sur l'information, a fait qu'ils sont quand même dans une espèce de bulle assez loin de l'Europe.
On va y revenir, mais justement tout à l'heure vous disiez l'armée russe se pensait comme une armée de libération, ils allaient libérer leurs frères, et ils s'aperçoivent qu'ils ne sont absolument pas accueillis comme des libérateurs, mais qu'au contraire ils sont accueillis avec des fusils, hein, par des snipers. Du coup, il y a, dit-on, des interrogations, ou en tous les cas une baisse de morale au sein de l'armée russe, qui doute, et qui doute aussi pour des problèmes logistiques, tout simplement, de sa supériorité. Je vous propose de voir ce reportage qui témoigne de ces problèmes de Benjamin Delombre, donc au sein de l'armée russe. On regarde.
En pleine offensive, les forces de Moscou connaissent parfois des déconvenues. Et sur les réseaux sociaux, certaines vidéos témoignent de leur désarroi. Ici, ce sont les soldats russes eux-mêmes qui filment leur situation.
On nous dit depuis 3 jours qu'on va venir nous récupérer, mais personne ne fait rien.
Dès que nous avons dormi par terre, sans tente, sans nourriture.
Voilà où nous avons dormi. Nos bottes sont trempées, on ne sait pas quoi faire.
Ils apparaissent sans armement lourd et disent avoir été abandonnés en rase campagne par leur hiérarchie.
Voilà ce que c'est l'armée russe.
Ces scènes où les troupes russes paraissent démunies, la propagande ukrainienne ne se prive pas de les exploiter. Les Ukrainiens diffusent ces vidéos. Ici, un char russe abandonné, tiré par un simple tracteur. Là, ce soldat ukrainien exhibe des rations alimentaires russes.
Soldats russes, je m'adresse à vous et peut-être à vos mères.
Elles seraient périmées depuis 2015. Ils cherchent à montrer que l'armée russe ne serait pas si bien préparée. La propagande et les services de renseignement ukrainiens utilisent aussi des vidéos comme celle-ci. On y voit un jeune soldat russe tout juste capturé, à qui on a offert du thé et des gâteaux. Il passe un appel visio avec l'un de ses proches.
Natacha, tout va bien, regardez. Parle-lui.
Le soldat sanglote.
Ça suffit pour l'instant, on vous rappellera. Il est en vie.
Atteindre le moral de l'ennemi, c'est aussi une arme de guerre que n'hésitent pas à utiliser les deux camps.
Alors, Chloé Ridel, on sait qu'il y a la propagande, et probablement des deux côtés. Mais on peut penser que, du côté de l'armée russe, oui, il y a des doutes. Isabelle Lasserre disait tout à l'heure, on imaginait une guerre éclair, une victoire de cette grande armée russe sur Kiev en quelques jours. Les soldats russes ont des raisons de s'interroger sur le bien fondé de cette agression, parce qu'en fait, ils s'imaginaient en libérateurs.
Bah, bien sûr, ils s'attendaient effectivement à être accueillis de façon presque bienveillante par les Ukrainiens. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et puis surtout, je crois qu'on ne leur avait pas si vous voulez, prédit l'étendue de ce qu'allait être ce conflit. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait une résistance, à ce que ce conflit dure dans la durée. Et on voit que les Ukrainiens savent exploiter ce désarroi, notamment avec le lien qui est fait avec les mères de soldats, pour aider les familles de soldats russes tués à prévenir les familles. Ils le font eux-mêmes et ils ne se privent pas de montrer des images. Et ils jouent sur l'amour le plus fort qui soit et le plus inconditionnel, l'amour des mères, qui peut-être pourra déclencher quelque chose, une sorte de résistance au sein même de la société russe. Donc c'est quelque chose d'assez habile. C'est une guerre totale que cette guerre. C'est une guerre terrestre, une guerre cyber et une guerre aussi de l'information. Vous parliez de propagande ukrainienne. Je pense qu'on peut plutôt parler de contre-propagande parce qu'il y a une propagande russe, pour le coup, qui prend un réel tournant totalitaire. On se croirait dans les années 30. On parle de choses qui n'existent tout simplement pas. On verrouille l'opinion. On n'a plus le droit de prononcer le mot « guerre » en Russie. Toutes les personnes qui protestent dans la rue sont enfermées. Et cet enfermement des Russes, vous le disiez, est extrêmement préoccupant.
Isabelle Lasserre, ce que montre ce reportage aussi, c'est une armée russe peut-être moins puissante, moins bien organisée, moins bien dotée que ce qu'on imaginait.
Il faut faire attention. On est juste au 12e jour de la guerre. On ne peut pas parler d'enlisement. D'abord, alors les Russes ont toujours eu des problèmes de logistique. C'est vrai que les images sont spectaculaires, mais moi, l'image du prisonnier là qui boit du thé, c'est la même qui tourne depuis 5 jours. Il faut faire attention parce que les Russes n'ont pas encore emmené leur force spéciale, les Spetsnaz, qui, elles, sont complètement aguerries. Ils n'ont pas encore bombardé à outrance avec leur bombardier les villes. Et ça marche, ils savent faire voler leurs avions. Donc, en fait, il y a des différences de niveau très importantes au sein de l'armée russe. Et ce n'est pas parce qu'on voit des conscrits qui sont payés, je crois, quelques dizaines d'euros par mois, qui avaient 3 jours de nourriture pour certains, parce que justement l'offensive était prévue pour durer 3 jours. C'est pas parce qu'on voit ça que la guerre va être perdue, enfin la guerre, la bataille des grandes villes et de Kiev va être perdue. Moi j'avais vu les mêmes scènes quand je couvrais la guerre de Tchétchénie. Il y avait déjà des conscrits qui étaient complètement paumés, qui savaient pas qu'ils allaient en Tchétchénie, qui avaient pas envie de se battre. Ça n'a pas empêché la Russie, à force de bombardements et de tortures, d'utiliser absolument tous les moyens, de gagner la guerre. Cela dit, c'est vrai qu'au 12e jour, on voit de plus en plus de craquements. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est pas tellement ces véhicules, parce qu'en fait, il y a à la fois des tanks et des transporteurs de troupes qui tombent en panne d'essence, visiblement. Mais c'est les premiers craquements qui sont pour l'instant à l'état de rumeur, mais qu'on voit plutôt plus haut. C'est-à-dire que, par exemple, depuis 2 jours, il y a une rumeur selon laquelle le chef d'état-major de l'armée biélorusse aurait démissionné en disant qu'il n'avait pas réussi à constituer une division parce que les Biélorusses ne voulaient pas entrer dans la guerre. Il y a des rumeurs de mauvaise humeur de Vladimir Poutine contre son chef d'état-major et son ministre de la Défense. Il y a des rumeurs des responsables qui partent de la Maison-Blanche d'une espèce de préparation de coup d'État. Alors, évidemment, il faut faire attention à ça.
Et tout ça témoigne d'une certaine fragilité. Dire, voilà.
Mais il y a des premiers petits craquements. Moi, j'ai jamais vu ça, en fait, dans les guerres de Vladimir Poutine. Des rumeurs à ce, voilà. Il faut les prendre avec une extrême précaution.
Même si Jean-Dominique Giuliani, le combat est forcément inégal. Alors, les Ukrainiens disent, le drame, c'est qu'on n'a pas d'avion pour combattre face aux MiG russes. Et alors, ils demandent expressément aux Polonais de leur fournir des avions de chasse. Est-ce que ça pourrait changer la donne? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand même, en fournissant des avions de chasse aux Ukrainiens, que de se laisser entraîner dans un engrenage qui fait qu'à la fin, on se retrouverait en face à l'armée russe, quoi?
Oui, bien sûr. Alors, oui, il y a un risque. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, on ne fournira pas d'avions de chasse. Parce qu'un avion, ça vole. Donc, s'il doit décoller de Pologne pour aller en Ukraine, c'est un acte de guerre. Donc, je pense que les Polonais et les Américains qui sont derrière vont être prudents. En revanche, on fournit beaucoup d'armes à l'Ukraine. C'est peut-être la différence avec les autres conflits, la Tchétchénie ou d'autres. C'est-à-dire que l'Ukraine est soutenue militairement avec ses systèmes individuels anti-aériens, anti-chars, etc., qui manifestement sont assez efficaces. Et comme il y a une volonté de se défendre, quoi qu'il arrive, s'il y a des armes, évidemment, il n'y aura pas la couverture aérienne. Pourquoi ? Parce que on peut s'étonner que l'OTAN ne s'engage pas. Mais en réalité, je crois qu'il faut être raisonnable pour deux. Si on s'engage, par exemple, pour une zone d'interdiction de survol en Ukraine, ça veut dire qu'on doit abattre des avions russes. Oui. Et donc là, à ce moment-là, on rentre en conflit avec la Russie. Et compte tenu du fait qu'elle est vite acculée, puisque à ce moment-là, c'est une guerre mondiale. Bon. Et donc ça, on veut l'éviter, c'est très délicat, c'est le peuple ukrainien qui va le payer très cher, vraisemblablement. On ne peut que le regretter, mais ne doit-on pas être raisonnable pour deux ? Je ne crois pas. Voilà. Et de surcroît, comment dirais-je, on voit ici, notamment en France, l'armée russe comme une grande armée. Je serais plus raisonné s'il devait y avoir un conflit. La flotte aérienne de l'OTAN, c'est 5 fois la flotte aérienne russe. Donc, il faut aussi rassurer les Français pour dire si on est raisonnable, ça ne veut pas dire qu'on a peur. On a peur d'un conflit mondial, mais ça ne veut pas dire qu'on a peur de l'armée russe, n'est-ce pas ?
Alors, Chloé Ridel, vous en parliez tout à l'heure, hein, la chape de plomb qui s'est abattue sur le peuple russe avec, dans le plus pur style soviétique, une propagande qui ne recule devant rien. Je vous propose de regarder la façon dont les journaux télévisés parlent de cette, de ce conflit, enfin de cette, de, comment, je sais plus comment,
opération.
Cette opération spéciale.
Spéciale militaire, pour reprendre les mots de Vladimir Poutine. Voilà, bah, donc on regarde la façon dont les médias russes parlent de cette opération spéciale.
À la télévision russe, on ne parle pas d'invasion mais de libération de l'Ukraine. Et aujourd'hui, l'antenne accuse l'ennemi de suspendre le couloir humanitaire.
Les nationalistes ukrainiens ne laissent pas sortir les civils de Mariupol.
Une majorité de la population adhère à cette version.
Qui d'autre je pourrais croire ? Je soutiens totalement Poutine.
Ce sont les médias étrangers qui racontent toutes ces conneries.
Alors Isabelle Lasserre, ils sont dupes ou patriotes les Russes ?
Les deux mots.
Un peu les deux.
Les deux mots général.
Elle est populaire cette guerre ou bien c'est que personne n'ose la critiquer ?
Non, elle n'est pas populaire, mais il faut bien voir quand même que dans les campagnes russes, il y a plein de Russes qui ne savent pas qu'une guerre est en train de se passer en Ukraine. Parce qu'on voit toujours l'image des manifestations en Russie qui sont d'ailleurs par ailleurs totalement courageuses et spectaculaires, parce que franchement les manifestants hier risquaient 15 ans de prison, donc faut vraiment avoir...
Mais est-ce que ça marche cette façon de présenter l'information
Est-ce que ça on arrive à manipuler ? Non, mais ça marche pas dans les grandes villes et ça marche pas dans les élites et ça marche pas dans les gens qui sont capables d'aller s'informer ailleurs qu'à la télévision d'État, mais ça marche ailleurs dans le pays, bien sûr. Donc il y a des Russes qui savent ce qui se passe mais qui ferment les yeux parce qu'ils ont peur. Il y a des Russes qui ne savent pas ce qui se passe, et puis de toute façon, ils n'ont pas envie de savoir, parce qu'ils ont toujours vécu comme ça. Et puis, il y a l'élite, une minorité qui est tout à fait au courant et qui s'oppose complètement à ça. Mais elle est majoritaire, donc le basculement n'est pas encore arrivé. Sinon, Vladimir Poutine aurait été renversé pendant les dernières émeutes en 2012.
Chloé Ridel, on est quand même dans un pays où on a l'habitude de ne pas trop contester ceux qui sont au pouvoir au Kremlin. Enfin, c'est la Russie, elle a courbé les Chines pendant 70 ans de communisme, et ce n'est pas le peuple qui a fait tomber l'URSS.
Non, effectivement, parce que la Russie est un pays extrêmement centralisé, et donc il suffit de prendre le pouvoir central pour le contrôler entièrement. C'est ce qu'on a dit de la révolution bolchevique en 1917. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le peuple russe est totalement enfermé dans la propagande de Poutine. Il faut être en compassion avec ça. Il faut garder le lien avec ce peuple russe. Il faut les aider à se soulever, parce qu'en réalité, la seule façon d'être en sécurité de nouveau, c'est le peuple russe qui nous le permettra, en renversant éventuellement le régime de Vladimir Poutine. Il n'y a que le peuple russe qui puisse nous sortir à moyen et long terme de cette situation. À court terme, on a intérêt à ce que cette guerre coûte le plus cher à Vladimir Poutine, donc que les Ukrainiens résistent et donc fournir des armes aux Ukrainiens. Je suis bien consciente que nous sommes ici sur une ligne de crête où on se demande si on doit fournir des avions ou simplement des mitraillettes et des casques. Mais en tout cas, notre intérêt, je le crois, pour notre sécurité, est que l'Ukraine résiste, parce que tant que l'Ukraine résiste, l'Ukraine gagne, en réalité. Chaque jour est une victoire supplémentaire. Donc il faut que cette guerre coûte. Vladimir Poutine, aujourd'hui, sur la propagande, il a quand même été obligé de révéler le nombre de morts qui est extrêmement élevé parmi les forces russes, même si il le réduit. Mais il a, par exemple, coupé Facebook.
Et donc, Twitter.
Il met une chape de plomb encore plus grande, parce que la Russie était déjà une démocratie, ce qu'on peut appeler illibérale, hein, avec une liberté de la presse et une liberté des oppositions quasi réduite à néant. Mais aujourd'hui, une chape de plomb qui s'abat sur les Russes. Donc il faut vraiment s'ériger contre ça et garder le lien avec le peuple russe.
Alors vous le disiez, le peuple doit se soulever et renverser Vladimir Poutine. En attendant, ce n'est pas facile pour lui, parce que dès qu'un manifestant montre le bout de son nez, il est arrêté. Hier, il y a eu plus de 4600 arrestations dans toute la Russie, ce qui porte à plus de 13 000 hein, le nombre de manifestants arrêtés pour oser critiquer et défier le pouvoir central. On regarde ce reportage de Diane Schlinger.
La plupart n'essayent même pas de résister. Non à la guerre ! Ils savaient ce qu'ils risquaient. Ils continuent seulement de clamer leurs convictions.
Poutine, enfoiré !
Pancarte pour la paix et rose blanche à la main.
C'est de la répression. La police prend les gens et les embarque un par un. C'est un cauchemar.
Cet après-midi à Moscou, les forces de l'ordre quadrillent. Et à peine les gens descendent-ils dans la rue qu'ils sont arrêtés. Laissez-moi tranquille.
On est pour la paix. Notre armée est la meilleure du monde. Elle doit nous protéger, mais pas attaquer les autres.
Les manifestants s'étaient donné rendez-vous à la mi-journée dans plus d'une cinquantaine de villes du pays.
Cessez volontairement de participer à ce rassemblement non autorisé.
Jamais la répression n'a été aussi forte. 4366 arrestations aujourd'hui à travers toute la Russie, en particulier à Moscou et Saint-Pétersbourg. Difficile d'évaluer le nombre total de ceux qui ont osé braver l'interdit malgré les conséquences.
Non à la guerre !
Même en dehors des manifestations, toute liberté d'expression est contrôlée. Ici à Moscou, les policiers vérifient le contenu des messages de ces jeunes.
Jean-Dominique Giuliani, on voit bien que c'est totalement vain de vouloir manifester. On est immédiatement, un pour un manifestant, on a l'impression qu'il y a trois anciens agents du KGB, je dis ça exprès alors que c'est le FSB maintenant, qui vous tombent dessus.
Oui, bien sûr, ils sont extrêmement courageux. Il ne faut pas dire que c'est vain, n'est-ce pas? Quand les gens se dressent pour la liberté, c'est jamais vain.
Et vous croyez-vous au peuple russe se soulevant pour faire tomber Poutine ?
Je n'en sais rien. Je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça. Ce que je sais, c'est que les gens sont informés, pas bien sûr en province, mais dans les villes, que les oligarques le sont aussi, que les chefs de l'armée aussi. Je me demande bien ce qu'ils pensent, notamment le chef d'état-major des armées, que l'on connaît bien, avec lequel on continue d'ailleurs de dialoguer. Ces gens-là voient bien qu'on va vers une défaite russe. On le disait, la défaite, c'est déjà en termes d'image, c'est déjà en termes de responsabilité de l'agression. Eh bien, je pense qu'à l'issue de tout cela, ce sera une défaite stratégique majeure pour la Russie. Et à ce moment-là, on pourra commencer à s'intéresser aux réactions à l'intérieur. Parce que ce ne sera pas le peuple qui se soulèvera tout seul. Ce sera vraisemblablement des questionnements des élites gouvernantes aussi face à une défaite majeure qui risque d'être stratégiquement terrible pour la Russie dans l'avenir. D'ores et déjà, je me demande comment on va sortir du régime de sanctions. On aura une Russie complètement appauvrie et déjà pas très riche.
Et justement, ces sanctions qu'on n'a jamais vues, on parle ce matin, le Financial Times révèle qu'il est même maintenant question de décréter un embargo sur le pétrole russe, ce qui fait que les Russes n'auraient plus aucune rentrée de devises. Est-ce qu'elles sont efficaces? On a vu les Russes juste aller vite faire des courses chez IKEA avant que IKEA ne ferme définitivement les portes à Moscou. Est-ce que ça peut être... Parce qu'on dit souvent que ce n'est pas très efficace comme arme, les sanctions, parce que ça soulève le peuple.
Normalement, ce n'est pas efficace. Les régimes de sanctions ont même plutôt tendance à souder un peuple derrière le régime qui a suscité ces sanctions. Et en tout cas, il n'y a pas vraiment d'histoire d'exemple dans l'histoire
oui,
de sanctions. Cuba, ça n'a pas marché. De sanctions qui ont fait chuter un régime. Hein. Cuba, ça n'a pas marché. Bon, l'Afrique du Sud de l'apartheid, mais c'est un petit peu différent. Mais là, on est dans une configuration complètement différente. C'est-à-dire que la violence de ces sanctions, l'importance de ces sanctions, on n'a même pas imposé ces sanctions à l'Iran, qui était pourtant un des pays
L'axe du mal.
C'était
Bush.
Oui, c'était Bush. Là, je parle de... Parce qu'il y a des sanctions européennes aussi. Ce n'était pas contre l'axe du mal. Là, c'était contre le fait que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, ce qui arrivera peut-être d'ailleurs un jour, mais c'est un autre sujet. Ouais. Mais là, ça va faire très, 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 très mal. Donc, je pense qu'il y a il n'est pas exclu qu'on assiste... au premier changement, là, j'extrapole, et il faut pas, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes, mais il n'est pas exclu que ce régime de sanctions contribue à faire, ébranle le régime à un point qu'il aille complètement dans le mur.
Et Chloé Ridel, est-ce que ces oligarques qui se croyaient les rois du monde et intouchables avec leurs milliards, leurs centaines de milliards à Courchevel, etc., est-ce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont furieux de ce qui se passe et est-ce qu'ils ont des moyens d'exprimer leur fureur?
Sans doute qu'ils sont furieux de ce qui se passe, bien sûr, puisque toute leur vie et toute leur fortune est basée sur la relation avec l'Europe. Ils ont pour la plupart des passeports européens, des biens en Europe, immobiliers, financiers, etc. Après, est-ce que ça va réussir à porter ses fruits? On parle de l'efficacité des sanctions. Ça dépend sur quel plan on se place. C'est-à-dire, est-ce que les sanctions sont efficaces pour stopper la guerre? Non. Est-ce que les sanctions vont éviter des morts civiles en Ukraine? Non. Mais est-ce que les sanctions, effectivement, peuvent fragiliser le régime de Poutine? À moyen terme, là, oui. Et donc, c'est pour ça que, de toute façon, c'est la seule arme que nous ayons, n'est-ce pas? Donc, qu'il faut y avoir recours. Mais il y a effectivement un danger que ça crispe la population, parce qu'une population qui est dramatiquement appauvrie, comme ça va être progressivement le cas du fait de cette sanction, même si on ne touche pas encore au gaz et au pétrole, la population n'a pas d'autre choix que de faire corps autour de son régime, qui est le seul moyen qu'elle a pour se sortir de cette situation. Donc il faut faire attention à cela, parce que, je le redis, il faut garder le lien avec le peuple russe, car le peuple russe est notre seul salut à moyen et long terme.
C'est ce qui s'était passé en Irak. Les Irakiens avaient fait corps... derrière Saddam Hussein les sanctions c'était en fait un petit peu retourné contre
les Américains.
En fait, en tout cas, c'était devenu un argument de propagande de Saddam Hussein extrêmement efficace dans certains pays et dans certains milieux de certaines populations. Quant aux oligarques, ils ont quand même mis une partie de leur fortune
dans les paradis fiscaux intouchables.
Voilà. Et puis, quant à la Russie, elle conservera toujours ses matières premières, notamment c'est la première ou la deuxième réserve mondiale d'or. Donc
et en pétrole, etc. Il n'empêche, il y a eu des manifestations à Moscou réprimées, mais il y a eu des manifestations surtout dans le monde entier. 40 000 personnes à Paris samedi pour protester contre Vladimir Poutine. Contre la guerre de Vladimir Poutine, une Russie très isolée aussi à l'ONU. Voyez ce reportage de Diane Schlinger.
Libérez l'Ukraine !
Un slogan qui résonne désormais aux quatre coins du monde. Du Japon au Portugal, des voix quasi unanimes pour soutenir l'Ukraine. À Paris, au son de l'hymne ukrainien, des milliers de personnes défilent pour la paix et contre le président russe.
Poutine, récupère ces soldats de notre terre et de ma terre et de ma patrie, de l'Ukraine et de Kiev. Arrête de lancer les bombes.
C'est une horreur, c'est un crime contre l'humanité.
On est là, on est prêts à les soutenir. Et moi, si j'étais plus jeune, je t'aurais demandé à combattre avec eux.
En face, Vladimir Poutine, plus isolé que jamais à l'international, se met en scène dans son pays. Pour la première fois depuis le début de la guerre, entouré de civils, des hôtesses de l'air, tasse de thé à la main, mais le discours lui est toujours aussi radical.
Si des pays établissent une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, à la seconde même, nous les considérerons comme des co-belligérants, quelle que soit l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent.
Ce vote de l'ONU mercredi dernier en est le symbole. Seuls 4 pays soutiennent la Russie dans sa guerre, 35 s'abstiennent. Un résultat largement salué par de nombreux applaudissements. L'ambassadeur russe reste lui stoïque sur sa chaise.
Jean-Dominique Giuliani, est-ce que Vladimir Poutine est devenu l'ennemi public numéro un de la planète? Je dis ça, il y a un entrepreneur russe, vous avez vu, aux États-Unis, qui offre $1 million pour arrêter Poutine, mort ou vif.
Oui, non, il est devenu un paria. C'est-à-dire qu'en réalité, ce ne s'est pas un combat de l'Occident contre Poutine, c'est les Sud-Américains, une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie, qui considèrent qu'au XXIe siècle, on ne fait pas ce qu'il a fait. Qu'on a fait des progrès dans la civilisation, qu'on a quand même appris qu'on peut faire la guerre, etc. Mais on ne procède pas comme il l'a fait, avec comme le KGB l'aurait fait, ou le pouvoir soviétique au XXe siècle, c'est-à-dire les mensonges, l'agression, la violence. On ne change pas les frontières comme ça. Et donc, il y a un mouvement mondial. 141 pays membres de l'ONU qui condamnent l'agression russe, des opinions publiques un peu partout dans le monde qui s'expriment. Il a déjà perdu tout cela. Et à mon avis, lui-même ne le retrouvera pas. Il ne retrouvera pas une bonne image dans le monde. Bien sûr, la Russie, c'est différent. Le peuple russe, c'est différent. Mais lui, il a déjà perdu, de ce point de vue-là, moralement, ce qui est, bien sûr, un réconfort pour les Ukrainiens, mais aussi qui l'achemine vers une vraie défaite politique, je crois.
Et qu'est-ce qu'il peut faire, Chloé Riden, maintenant? Il est lancé, il ne va pas reculer, Vladimir Poutine. On ne voit pas l'issue de cette guerre dans laquelle il est parti dans une fuite en avant.
Il est totalement parti dans une fuite en avant. Il est acculé. Et comme vous le dites, une bête acculée peut devenir dangereuse, féroce. Ce qu'il arrêtera, c'est l'atteinte de ses objectifs, c'est-à-dire le remplacement du régime de M. Zelensky par une marionnette à la botte du Kremlin. Pour atteindre ses objectifs, il y a deux façons de le faire. Soit on laisse le champ libre et à ce moment-là, on arrête les morts civiles, mais l'Ukraine disparaît. Soit on nourrit la résistance ukrainienne pour faire que cette guerre coûte à Poutine de plus en plus. Peut-être que Poutine n'atteindra pas ses objectifs, in fine. Et peut-être qu'à ce moment-là, il acceptera de discuter sur des termes différents. Aujourd'hui, il y a des pourparlers qui ont eu lieu. Ce que demande Poutine, c'est non seulement la décapitation du régime démocratiquement élu de M. Zelensky, mais c'est aussi sa neutralisation, le fait qu'elle n'adhère jamais à l'OTAN. Bon, de toute façon, elle n'en est pas membre, donc pourquoi pas. Mais sa démilitarisation, enfin, ce sont des termes qui sont inacceptables pour les Ukrainiens. Donc, on veut bien essayer de trouver une issue à ce conflit, mais il faut qu'à la fin, il y ait un compromis qui puisse se faire jour. On ne peut pas en décider à la place des Ukrainiens, parce que j'entends beaucoup de gens aujourd'hui qui disent il faut faire ci, il faut faire ça, sans demander leur avis au peuple ukrainien. Sans doute qu'une solution, in fine, de compromis, pourrait être que l'Ukraine reconnaisse que la Crimée
et le Donbass.
Est définitivement, et le Donbass, sous souveraineté russe, qu'en échange, l'Ukraine adhère à l'Union européenne, pourquoi pas, ça pourrait être un compromis, et pas à l'OTAN. Mais pour arriver à cette discussion-là, il faudra du temps parce que Poutine n'est pas prêt.
Alors vous le disiez à l'instant, il est possible que Vladimir Poutine n'atteigne pas ses objectifs, il est possible que Vladimir Poutine perde cette guerre, c'est ce que pense, et c'est le pronostic de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il est d'ailleurs l'invité de C'est dans l'herbe, à écouter ce qu'il pense sur l'issue de ce conflit.
Je pense que l'Ukraine gagnera.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Parce que la force, d'abord parce que la Russie s'est complètement isolée dans le monde. Elle n'a plus comme soutien que quoi, la Corée du Nord, la Bélarus, la Syrie. C'est donc comme des compagnons de route, on ferait mieux. Quoi. C'est quand même pas des gens très fréquentables.
Isabelle Lasserre, c'est vrai que même la Chine n'a pas, elle s'est abstenue, elle n'a pas soutenu la Russie.
Oui, il y a quand même un soutien tacite de la Chine depuis le début du conflit. Hein. Ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'elle vient d'accepter ce matin
de
jouer un rôle de médiateur. Et là, c'est
et
vrai
pourquoi
que...
C'est parce que ça l'embête au fond ce conflit, il faut en sortir.
Bah oui, c'est quand même un petit peu. Oui, là, pour la Chine, Vladimir Poutine est allé trop loin. Enfin, il déstabilise tout le système international. Il induit des changements géopolitiques qui vont nécessiter une réadaptation de la part de tout le monde. C'est pas une bonne nouvelle. En plus, il a quand même agité la menace nucléaire. Donc la Chine, grande puissance nucléaire, n'aime pas ça. Et ça, c'est intéressant parce que on se dit qui pourrait avoir une influence sur Vladimir Poutine. On voit bien que personne n'y arrive, ni Emmanuel Macron, ni le Premier ministre israélien, ni le chancelier allemand. La Chine, ça pourrait être autre chose parce que la Chine est alliée de la Russie. Mais en même temps, elle a un ascendant, évidemment, sur la Russie. La Chine est beaucoup plus puissante économiquement et beaucoup plus forte. Ce sont deux régimes politiques similaires, c'est-à-dire des dictatures. Donc, Poutine, en parlant à la Chine, n'a pas à parler à l'ennemi occidental, hein, puisque Vladimir Poutine a plusieurs fois utilisé ces mots. Donc, ce n'est pas l'Union européenne et ce n'est pas les États-Unis. Et on peut tout à fait imaginer Xi Jinping essayant de tordre le bras de Vladimir Poutine en disant « Écoute, on a besoin un petit peu de stabilité entre deux grandes puissances, on partage les mêmes modèles politiques. » Voilà. Enfin, après, une fois qu'on a dit ça, il faut attendre de voir quelle sera la réaction en face d'un homme qui est engagé dans une fuite en avant, mais qui n'est pas forcément irrationnel. Hein. C'est-à-dire qu'il a sa rationalité à lui. Mais il la pousse complètement à l'extrême. Mais tout ce qu'il fait aujourd'hui, alors que ce soit horrible et que ce soit une connerie qui le mène à sa perte, c'est ce que je pense, c'est une chose. Mais ce n'est pas forcément irrationnel. C'est-à-dire que c'est en accord avec son programme pour la région et pour l'Ukraine depuis très longtemps.
C'est son autre réalité, comme le décrivait... Jean-Dominique Giuliani, Angela Merkel. Jean-Dominique Giuliani, comment la Chine voit-elle les choses et quelle analyse et quelle leçon va-t-elle tirer de tout ce qui se passe en ce moment ?
Elle se réjouit chaque fois que l'Occident ou les États-Unis sont en difficulté et que les choses changent. On l'a vu dans cette déclaration entre la Russie et la Chine il y a deux mois, ou un mois, je crois, sur la fin des règles imposé par l'Occident, et en même temps, la Chine est gênée par l'action russe, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est l'origine du conflit, et pourquoi les gens sont très choqués par l'agression russe. En 1994, il y avait 1900 têtes nucléaires soviétiques qui étaient encore en Ukraine, et qu'on a rapatriées en Russie, d'ailleurs c'est les Américains qui ont payé, pas la Russie, pour les détruire ou les réutiliser. En contrepartie, dans ce traité qui s'appelle le Mémorandum de Budapest, garanti par les 5 puissances membres du Conseil de sécurité, la Russie reconnaissait les frontières de l'Ukraine. Et il y a plusieurs traités ensuite, notamment en 1997, où la Russie reconnaît les frontières de l'Ukraine, y compris la Crimée. Et donc, ce viol, ce reniement de sa signature, ça c'est quelque chose que... qui doit beaucoup gêner les Chinois, parce qu'ils ont besoin de règles, quitte à les faire changer, quitte à les faire évoluer. Mais si on se met à discuter de l'indépendance du Tibet ou du Xinjiang, à ce moment-là, la Chine n'est plus d'accord. Et donc le reniement par Poutine de sa propre signature, à mon avis, ça c'est quelque chose qui, conceptuellement, gêne beaucoup la Chine.
Et vous parliez de la menace nucléaire, enfin de l'aspect nucléaire des choses. Est-ce que les Ukrainiens se disent, si on avait gardé ces ogives nucléaires, peut-être serions-nous toujours indépendants ? Est-ce que le fait que Vladimir Poutine agite ostensiblement la menace nucléaire, est-ce que là aussi, il viole les règles du jeu international et de l'utilisation de cette arme qui, alors dites-moi si je me trompe, mais on apprenait à l'école qu'elle était dissuasive, c'était une arme de défense et jamais une arme offensive.
Vous avez raison, et d'ailleurs... La doctrine officielle russe, c'est toujours une arme défensive. Ouais. Et donc, il l'a évoqué. Je crois qu'il a eu tort. Il a eu tort parce que s'il l'utilisait, les conséquences seraient aussi pour lui. Donc, c'est une arme qu'on ne doit pas employer, la dissuasion. Et je devrais dire, comme le ministre hier soir, notre ministre des Affaires étrangères, moins on en parle, mieux ça vaut, parce que c'est inapproprié. S'il en parle... À mon avis, même autour de lui, ses militaires ne seront pas d'accord. C'est tellement contraire aux intérêts de la Russie et à ses propres intérêts. C'est pour faire peur. Et donc, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là et il ne faut pas en parler. Il ne l'utilisera pas parce que sinon, il n'y a plus de Russie, n'est-ce pas ?
C'est pour faire peur. C'est vrai que toute l'Europe a peur. Hein. Les Allemands qui vont lâcher 100 milliards d'euros pour moderniser leur armée, qui disent « bon, ben, maintenant, on va faire comme les Français, on va mettre 2% du PIB dans la défense », c'est ce qui se passe en Russie qu'on croyait improbable, impensable. Change notre regard sur la sécurité en Europe.
Mais complètement. La menace nucléaire, c'est destiné à nous faire peur. Et d'ailleurs, ça marche, puisque ça donne des arguments à des gens qui, aujourd'hui, vous disent « Attendez, il faut arrêter tout de suite. Il ne faut pas aider la résistance ukrainienne. Il faut la paix, parce que sinon, on va se recevoir une bombe nucléaire sur la tête. » Donc ça donne des arguments à ces gens qui se font passer pour des pacifistes, mais qui, en réalité, voudraient laisser l'Ukraine aux mains de Poutine en un rien de temps pour que tout ça s'arrête. Donc cette menace nucléaire veut nous faire peur. Ensuite, oui, il y aura un avant et un après cette crise. Je crois que cette guerre en Ukraine 2022 marque l'acmé d'un moment historique de bascule pour l'Europe qui a commencé bien avant la guerre en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine nous fournit une menace existentielle qui, historiquement, a toujours fécondé de nouvelles idées de l'Europe, de nouveaux cycles historiques en Europe. Vous le dites, l'Allemagne a décidé, dans une sorte de pivot dont elle seule a le secret, d'envoyer des armes létales sur une zone de conflit, d'augmenter ses efforts de défense alors que nous nous époumonons depuis 30 ans pour que cela soit le cas. Donc on avance vers une défense européenne plus forte, plus autonome. On le verra dans le sommet qui est tenu à Versailles d'ailleurs
cette semaine.
Et ce sera évidemment un grand progrès.
Isabelle Lasserre, si Vladimir Poutine a réussi à faire peur avec l'arme nucléaire, c'est parce qu'il est Vladimir Poutine et qu'on s'interroge sur sa santé mentale. Je dis ça, c'est l'Élysée qui a parlé de la paranoïa, et Angela Merkel, je le disais tout à l'heure, qui disait qu'il vivait dans une autre réalité, qu'il avait perdu pied avec la réalité. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'avoir un maître du Kremlin tout puissant qui a le feu nucléaire dans les mains et qui est acculé comme une bête, là?
Oui,
dans son conflit en Irak.
Si on a eu peur, c'est pour ça, c'est aussi parce que la Russie fait une différence dans la dissuasion nucléaire. Il y a deux parties. Il y a les armes nucléaires stratégiques et les armes nucléaires tactiques, qui sont de petites armes nucléaires qui font moins de dégâts que les grosses, en gros, si je peux caricaturer comme ça. Enfin, à chaque fois, c'est quand même au moins en Hiroshima, hein, donc, mais qui peuvent se limiter à détruire une ville. Je ne suis pas en train de relativiser. C'est sur cette partie qu'il y a une espèce d'ambiguïté dans l'emploi de l'arme nucléaire. La France, par exemple, elle n'a pas ce type d'arme. Donc c'est aussi ça qui fait... En fait, la Russie établit une gradation entre les différentes armes nucléaires, alors que des pays comme la France, on ne parle pas d'armes nucléaires, il n'y a pas d'armes nucléaires utilisables ou pas utilisables, tout est... C'est ça qui fait peur, et c'est aussi effectivement Poutine. Il est très isolé depuis 2 ans. Visiblement, il a une trouille bleue du Covid. Il voit beaucoup moins de, il voit quasiment personne. Pour voir Poutine, il faut faire je ne sais pas combien de tests PCR et parfois rester en quarantaine pendant 15 jours. Il est dans une espèce de citadelle assiégée. Il faut bien voir aussi que il est engagé dans une opération de révisionnisme historique depuis des années. On a l'impression qu'il a fini par croire en fait au nouveau monde qu'il nous décrit, et qui est un monde qui est complètement contraire à la réalité. Donc oui, effectivement, il y a à la fois une rationalité qui fait que en fait, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, et tout est prévu, parce que en fait, il a un but quand même assez simple. Après, il prend des opportunités qui est de recomposer restaurer l'influence de la Russie sur l'ancien empire soviétique, voire même un petit peu d'influence sur certains pays d'Europe de l'Est peut-être. Mais après, il saisit les opportunités au fur et à mesure. En prenant son élan sur les faiblesses occidentales, les divisions de l'Union européenne et les promesses des Américains de se retirer de l'Europe et du Moyen-Orient, qui lui dessine une autoroute. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Non.
Mais est-ce que le fait qu'il maintienne le contact avec Emmanuel Macron, pour l'instant, ça n'a jamais abouti, mais est-ce que ça peut offrir une porte de sortie pour...
Il faudra bien un jour qu'il y en ait une. Je crois ce que pense le président de la République. C'est un exercice difficile. Mais bon, il s'en est expliqué. Je crois qu'il a raison. À un moment ou à un autre, il faut pouvoir parler avec quelqu'un. Donc, il a fait en sorte de respecter un homme qui n'est pas, à mon avis, qui n'est pas respectable. Pour compléter ce que dit fort justement Isabelle Lasserre, pour citer Garry Kasparov, ancien champion du monde des échecs, qui est réfugié aux États-Unis. On lui dit, ah, quand même, quel joueur d'échecs, ce Poutine. Il dit, non, c'est pas un joueur d'échecs. Aux échecs, on a des règles. Poutine n'a pas de règles. Et donc, je pense que c'est assez juste. Bien sûr, c'est de la part d'un opposant, mais c'est assez juste. Ce n'est pas un stratège, c'est un opportuniste, comme le dit Isabelle Lasserre, c'est-à-dire qui saisit plutôt un mauvais joueur de Go. Quand on laisse un espace, il l'occupe.
Mais un très bon joueur de judo qui sait utiliser la force de l'adversaire
pour le faire trébucher. Voilà. Voilà, mais aux échecs, il y a des règles et Poutine n'a pas de règles. Signé Gasparov. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée, à demain.